Des fermes ?
Bah, des arbres ?
Des fermes ?
Et des arbres !
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Et bonjour et bienvenue sur notre nouvelle émission des fermes et des arbres. Bonjour François.
Bonjour Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien ça va très bien, toi aussi ?
Bah écoute, ça va. Hein.
Donc dans cette émission, donc on va parler du pain de Salzmann, mais je vous redirai quelque chose après. Sur quoi tu vas parler François ?
Eh bien moi je vais parler un petit peu de démographie puisque j'ai eu en possession les derniers chiffres de la MSA, donc édition 2017.
Très bien. Donc on va commencer par le sujet forestier. Donc rappelez-vous, à la dernière émission, nous avions parlé des pins et de leur dynamique naturelle. Et pour cette émission, je vous propose de parler d'un pin un peu particulier qui est le pin de Salzmann qui, vous le verrez, est intéressant à plusieurs points de vue. Donc pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Caroline Scotti, chercheuse à l'INRA d'Avignon. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Donc est-ce que tu peux d'abord un peu te présenter et présenter l'INRA, ce que fait l'INRA d'Avignon ?
Oui, très bien. Donc je suis Caroline Scotti Saint-Agne, je suis ingénieure de recherche à l'INRA. Donc l'INRA, je rappelle, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique. Et je travaille à Avignon dans l'unité de recherche qui s'appelle l'écologie des forêts méditerranéennes. Alors dans cette unité, on est plusieurs chercheurs, ingénieurs, techniciens qui essayaient de comprendre et prédire la dynamique des forêts. Donc il y a des experts en modélisation de la croissance, du feu. On essaye aussi de comprendre et prédire le fonctionnement de la forêt. Donc il y a des experts en biologie de l'arbre, biologie des pathogènes de l'arbre aussi. Et puis on essaye de comprendre et de prédire l'évolution des forêts méditerranéennes. Et là, on a des experts en génétique et moi j'en fais partie. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'essayer d'évaluer les risques et de fournir des stratégies de gestion pour l'adaptation des forêts, comme on le sait, dans un contexte de perturbation avec perturbation climatique, puisqu'il est changeant en ce moment. Voilà.
Très bien. Donc Caroline, donc une étude a été réalisée sur 10 ans par l'INRA sur le pin de Salzmann, qui est un pin noir. Pourquoi la recherche s'intéresse particulièrement à cette espèce de pin ?
Alors, c'est vrai que c'était une vaste étude puisqu'elle a duré 10 ans. Et dans cette étude, nous sommes posés plusieurs questions. Et tout d'abord, nous avons voulu reconstruire l'histoire évolutive du pin de Salzmann, mais aussi de tous les autres pins noirs, parce que le pin de Salzmann fait partie de l'espèce du pin noir. Nous avons aussi essayé de caractériser la diversité génétique de tous ces pins sur le pourtour méditerranéen et de tester la présence d'hybridation entre ces essences. Alors, si l'on essaye de reprendre les grands résultats de cette étude, tout d'abord, un résultat important, c'est que le pin de Salzmann n'est pas une espèce à part entière, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se reproduire avec les autres essences de pin noir qui sont décrits sur tout le pourtour méditerranéen. Alors on connaît bien, nous, par exemple, le pin noir d'Autriche qui a été planté dans les Cévennes ou le pin laricio. Donc on sait que ce sont des sous-espèces de pin noir et qu'ils peuvent se croiser entre eux. Donc ils peuvent s'hybrider. Ensuite, on a pu mettre en évidence que toutes ces sous-espèces ont divergé aux dernières glaciations suite à des événements de contraction de population dans des refuges qui étaient dans des zones plus au sud parce que dans le nord, il y avait des glaciers. Et ces isolements de population ont fait qu'elles ont divergé. Chacune a eu sa propre vie indépendamment des autres sans toutefois mettre en place des barrières à la reproduction. Voilà, ça c'était le résultat sur l'histoire du pin noir. Et ensuite, concernant la caractérisation de la diversité génétique, on a pu montrer que sur le pourtour méditerranéen, chaque grands pays, en fait, chaque grande région, que ça soit la Turquie, les Balkans, la Corse, l'Italie ou France-Espagne, sont des identités génétiques bien différentes qui ont leur propre histoire. Et au sein de chacun des pays, et notamment en France, si l'on regarde la diversité génétique des Pinsalsmans en France, on peut voir qu'il y a 10 particularités régionales, et notamment dans les Cévennes, le Salzman du col du Gla, par exemple, est différent du Salzman qu'il y a dans les Pyrénées ou qu'il y a dans l'Ardèche.
D'accord. Voilà. Donc, pour résumer un peu, le pin salzman est un pin noir, une sous-espèce de pin noir parmi la grande espèce des pins. Et il reste des populations un peu partout, enfin pas un peu partout, mais des petits points de population en France. Donc, il y en a 5, il me semble.
Oui.
Voilà.
Ça, je peux y revenir. Il y a des pins de Salzman en France, il y en a beaucoup. Par contre, des pins de Salzman autochtones, c'est-à-dire qui n'ont pas été plantés, il en reste très peu.
D'accord.
Voilà. Et je peux vous expliquer, si vous avez le temps, de comment on les a retrouvés, ces pins.
Vas-y, allez.
Donc, en fait, la question se posait, c'est à partir de quel âge on peut dire qu'un pin de Salzman est autochtone ou alors planté? Ça, c'était une question difficile parce qu'il y a eu beaucoup de plantations. Et en fait, on s'est mis une barrière temporelle et on s'est dit, voilà, à la fin du 19e siècle, il y a eu des grands événements de reboisement des espaces montagneux pour maintenir les sols. Et donc, on s'est dit, on va essayer de retrouver des arbres qui sont plus anciens que cette première campagne de reboisement qui a été réalisée fin 19e. Donc, nos techniciens forestiers sont partis inventorier tous les arbres qu'on a répertoriés en France, qui sont dans les Pyrénées et dans les Cévennes, principalement. Et on a fait un carottage, donc ça veut dire qu'on a fait un petit trou dans l'arbre, on a extrait une carotte du bois, on a compté les cernes et on a estimé leur âge. Et tous ceux qui avaient plus de 150 ans ont été inventoriés. Leur ADN a été extrait et on en a étudié la diversité génétique. Voilà. Et ces arbres, il y en a 850 en France.
D'accord. Et pourquoi, alors la question qui vient, c'est pourquoi, juste après, pourquoi il est important de s'occuper de la conservation de cette espèce, de cette sous-espèce d'ailleurs, de pin noir?
Alors justement, on en a répertorié que 850 en France au niveau national. Et il y a des populations qui sont encore plus petites. Par exemple, celle du col du Gla, il n'y a plus que 50 individus de plus de 150 arbres. Donc, d'un point de vue patrimonial, c'est important de les conserver parce qu'il y en a très peu. Ensuite, c'est aussi important de les conserver parce que, comme ils ont des caractéristiques génétiques un petit peu différentes, ces populations-là dont on parle, des Pyrénées, des Cévennes de l'Ardèche ou des Cévennes de Lozère ou du Gard, il y a des différences. C'est important de conserver toute cette diversité génétique pour pouvoir, si on en a besoin, la remettre à contribution pour une évolution future des arbres, quoi.
Est-ce qu'il est plus résistant que les autres pins noirs ou...
Alors, le pin de Salzman a effectivement une particularité vis-à-vis d'un pathogène qui est en train de sévir sur les pins, notamment le pin laricio. Cette maladie, c'est la maladie des bandes rouges qui est occasionnée par un champignon. Et des tests réalisés par l'INRA, en jardin commun, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les sous-espèces de pin noir dans le même jardin et on va regarder comment attaque le champignon. Et on peut voir que parmi toutes les sous-espèces de pin noir, le pin de Salzman, c'est celui qui résiste le mieux. Donc en jardin commun, il va être attaqué à 30%, alors que, par exemple, l'aricio va être attaqué à 70%. Mais ça, c'est en jardin commun, quand on met ensemble toutes les espèces de pin dans le même jardin. Par contre, en population naturelle, à preuve du contraire, ou en tout cas nous, à notre connaissance, il n'y a pas d'attaque de pin de Salzman. Donc c'est important de le conserver car il a la particularité de résister à cette maladie qui est de plus en plus présente car elle va avec le changement climatique, quoi. Elle est de plus en plus présente avec les événements de sécheresse et d'humidité. Il a un comportement qui va bien avec le climat qu'on est en train d'avoir sur notre territoire.
D'accord, donc c'est pour ça que c'est important aussi pour les gestionnaires forestiers de savoir qu'il y a cette sous-espèce-là pour résistante à cette maladie.
Oui, complètement. Et puis le pin, alors ça c'est propre à tous les pins noirs méditerranéens, mais bon, il est résistant à la sécheresse et c'est une bonne essence pour le reboisement. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on a l'habitude de voir des pins de Salzman complètement tortueux, qui sont pas très jolis, mais un pin de Salzman qui est planté dans un terrain avec un sol, il fait du très beau bois, il fait de belles grumes et il a une résistance qui est bien supérieure aux autres pins. Et c'est pourquoi d'ailleurs il était utilisé pour faire les poteaux dans nos mines, dans les Cévennes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y en a plus beaucoup, parce qu'ils ont tous été coupés. On préférait bien sûr le pin de Salzman au pin maritime. Et ceux qui restent sur des terrains médiocres, ils sont tortueux parce qu'ils n'ont pas été utilisés pour faire les poteaux. Donc on a en fait dans nos forêts les plus moches des pins de Salzman. Les autres ont tous été coupés et utilisés. Mais si on les replantait, bien sûr, ils feraient de très beaux arbres.
D'accord. Et quelles sont les menaces aujourd'hui qui pèsent sur le pin de Salzman ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a des menaces exogènes, enfin, qui sont en fait liées au changement climatique. Une des premières menaces, c'est l'incendie. Hein, la probabilité des incendies est croissante avec nos fortes sécheresses. Donc les pins de Salzman, ils ont déjà résisté à des incendies, notamment je pense aux Salzman qui sont dans les Cévennes gardoises, mais un deuxième incendie ne permettrait pas à ces arbres de résister, et il en reste plus que 50, donc oui, il y a des menaces importantes sur ces arbres. On voit aussi qu'il y a quand même des débuts de dépérissement sur ces vieux arbres liés aux sécheresses qui sont répétitives. Et puis il y a des menaces. Alors on ne peut pas appeler ça complètement une menace, mais c'est vrai que l'hybridation avec les autres sous-espèces de pins pourrait engendrer des ponts pour la contamination par ces pathogènes, par ces champignons, quoi.
Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour nos auditeurs ce que c'est que l'hybridation ?
L'hybridation, c'est le mécanisme de reproduction entre des sous-espèces ou des espèces différentes qui vont engendrer des hybrides. Donc ça veut dire que l'individu, il partagera le génome des deux espèces ou des deux sous-espèces par an. Voilà.
D'accord. Et pourquoi il est important quand même de conserver des peuplements purs sans trop d'hybridation ?
Moi, ça, alors c'est toujours difficile de parler négativement de l'hybridation parce qu'elle a beaucoup aussi d'avantages. Donc je vais parler des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'hybridation, c'est qu'elle apporte de nouveaux gènes, puisque ce sont des croisements entre des espèces ou des sous-espèces qui ont des patrimoines génétiques différents. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de la mixité parce que ça apporte des combinaisons de gènes différentes et surtout quand on est en milieu changeant comme en ce moment avec les réchauffements climatiques, c'est toujours bien d'avoir de nouveaux gènes parce que ça peut permettre une adaptation plus rapide et meilleure à l'environnement. Par contre, ça peut avoir aussi des inconvénients. Et là, on peut se poser la question dans le cas particulier du pin de Salzman, car on a dit tout à l'heure qu'il avait la particularité de résister à une maladie, la maladie des bandes rouges. Donc, et qu'au contraire, les pins lariciaux ou les pins noirs, qui sont plantés souvent tout autour des pins de Salzman, sont eux sensibles à cette maladie. Donc l'hybridation entre les deux, entre le pin de Salzman et un pin laricio, elle est possible. On a pu mettre en évidence à l'INRA dans ce fameux projet qui a duré 10 ans, on a pu mettre en évidence que l'hybridation est possible mais faible, donc inférieure à 5% dans un peuplement. Mais on n'a aucun recul aujourd'hui pour dire si c'est si, même si c'est faible, c'est-à-dire 5%, est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le pathogène puisse rendre sensible le pentasman? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça et il faut que la recherche poursuive ses études.
Comment conserver cette espèce, cette sous-espèce?
C'est bien.
Je n'arrive pas.
Le message est passé.
Voilà.
Alors, il y a deux façons de conserver un patrimoine génétique, une sous-espèce ou une espèce. Il y a la conservation que l'on nomme in situ, c'est-à-dire localement, là où pousse le peuplement. Et alors pour ça, donc on peut faire de la conservation en faisant attention, donc en protégeant de l'incendie par exemple, en intervenant pour éviter que les incendies se propagent sur ces sites, en favorisant par exemple la régénération des descendants qui pourraient être issus des peuplements autochtones. Ou alors, on peut aussi avoir une démarche plutôt nationale et essayer d'avoir un cadre législatif et réglementaire en demandant, par exemple, de faire labelliser le peuplement en tant qu'unité de conservation pour les ressources génétiques. Alors ça, c'est une possibilité, donc c'est la conservation in situ.
D'accord.
Et deuxièmement, il est possible de faire une conservation ex situ, c'est-à-dire non pas sur le site, mais sur un autre site. Pour pouvoir avoir une copie, en quelque sorte, des individus autochtones. Et ça, alors, ça a été fait dans le cadre du projet dont on a parlé tout à l'heure, où l'ONF a greffé parmi les 850 arbres de plus de 150 ans qui ont été inventoriés sur toute la France, l'ONF a greffé 687 arbres et a mis en collection dans l'unité expérimentale de Cadarache, qui se situe dans les Bouches-du-Rhône, toute la collection. Donc ça veut dire que l'on a une copie de tous les arbres anciens, autochtones, dans la pépinière de Cadarache. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait pas copier cette copie, cette collection, puisque maintenant on a des greffons, donc il est possible de greffer les greffons et de les replanter, non pas à Cadarache, mais dans les Cévennes ou dans les Pyrénées, pour avoir des copies de cette collection dans un environnement qui serait plus proche de celui qui caractérise l'environnement des parents autochtones.
D'accord, et je fais le lien du coup avec une rencontre qu'on a eue le 16 février dernier à l'initiative du chargé de mission Natura 2000 des Gardons de Mialet avec l'INRA et l'ONF sur justement cette conservation ex situ des pins de Salzman, mais on en reparlera un peu plus tard sûrement dans cette émission.
Je voulais juste peut-être ajouter que le fait de greffer les arbres anciens permet de rejuvénéliser les arbres. C'est-à-dire que nos arbres anciens, ils n'arrivent plus trop à se reproduire. Quand on va sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas de descendants, il n'y a pas de jeunes arbres. Par contre, si on arrive à replanter les collections par le simple fait qu'on plante des greffons, ça se peut que ces arbres arrivent à se reproduire. Et donc, par le même coup, on conserve les anciens, mais on leur permet de se reproduire et donc de continuer leur histoire par le biais des croisements entre eux et de remobiliser de la diversité génétique et voilà, de leur donner une deuxième vie, quoi.
Et maintenir une biodiversité, du coup.
Et maintenir une biodiversité, oui.
D'accord, et très bien. Merci beaucoup, Caroline, pour ces explications.
Merci à vous de m'avoir invité.
Oui. Est-ce que tu souhaites laisser des coordonnées ou on le mettra sur le site internet, peut-être?
Alors, mon adresse personnelle au travail, c'est caroline.scotti-sainte-agne@inra.fr. Et puis, vous pouvez vous rendre sur le site de l'URFM de l'INRA. Et puis, bien sûr, oui, c'est peut-être plus simple de mettre nos coordonnées sur le site. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions plus précises.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir et bonne journée.
Cristina é uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira pra Cristina me amar. Cristina é uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira pra Cristina me amar. Menina, vem depressa aprender a namorar. Beijinho que eu vou dar, Cristina, na na, la ya, la ya, Cristina, la ya, la ya, la ya, Cristina, na na, la ya, la ya, Cristina, la ya, la ya, la ya. É uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira pra Cristina me amar. Cristina é uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira pra Cristina me amar. Menina, vem depressa aprender a namorar. Vem ver como é gostoso o beijinho que eu vou dar. Cristina, na na, la ya, la ya. Cristina, la ya, la ya, la ya. Cristina, na na, la ya, la ya. Cristina, la ya, la ya, la ya. Cristina, na na, la ya, la ya. Cristina, la ya, la ya, la ya. Cristina, na na. La ya, la ya, Cristina, la ya, la ya, la ya.
Et nous voilà de retour sur Radio Bartas pour l'émission des Fermes et des Armes. C'était la petite pause musicale, Cristina de Nazaré Pereira.
Eh bien, on enchaîne alors,
Nathalie. On enchaîne sur le sujet agricole, François.
Oui, moi, je vais vous parler un peu de statistiques agricoles, tiens.
Ouf, voilà. Un superbe sujet.
Ça va changer. Bon, en fait, j'ai eu en possession donc, les dernières données statistiques établies par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, notamment pour caractériser notre population agricole en France, quoi. Alors, tiens, une petite question, Nathalie.
Ouf.
Une petite colle. Sais-tu combien en France on a d'actifs agricoles, c'est-à-dire à la fois les salariés et les non-salariés, c'est-à-dire principalement les chefs d'exploitation? Est-ce que tu as une idée ou alors,
non, alors
joker.
Joker.
Eh bien écoute, on en a à peu près 1,2 million. Donc ces actifs agricoles, ils sont répartis en gros, donc il y a 495 539 chefs d'exploitation. Et on a 686 000 salariés. Les chiffres sont petits.
Il a du mal à lire son papier. Et un pourcentage, parce que bon...
Voilà, donc en gros, ça fait 42% de non-salariés. Donc dans les non-salariés, on prend en compte les chefs d'exploitation, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.
Moi, en fait, je demandais le pourcentage par rapport à la population active.
À la population active, on est à peu près autour de 2%.
D'accord.
Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc le nombre d'actifs, donc le nombre de chefs d'exploitation, donc je le disais, s'élève à peu près à un peu moins de 500 000 personnes, donc au 1er janvier 2016, donc incluant les collaborateurs d'exploitation et les aides familiaux. Ce qu'on se rend compte, c'est que le nombre d'actifs non salariés agricoles donc, diminue chaque année et a été divisé en deux depuis 20 ans. Donc c'est quand même assez important. Toutefois, ce rythme de baisse de la population tend néanmoins à se réduire un petit peu ces dernières années. De moins 3% en 2007, il s'est progressivement réduit pour atteindre moins 1,8% en 2016. Donc ceci est dû principalement au repli limité de la catégorie principale, donc les chefs d'exploitation, ces dernières années. On a une baisse de moins 1,2%. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que l'exercice de l'activité des chefs d'exploitation prend majoritairement la forme sociétaire, c'est-à-dire que c'est des exploitants qui sont soit par exemple en GAEC ou en statut de ARL. Alors après, dernière chose concernant les chefs d'exploitation, on a remarqué donc en 2016 il y avait 19 500 entrées de chefs d'exploitation pour 25 300 sortants, donc ce qui correspond en fait à un taux de remplacement des départs de 77%. Et ce taux de remplacement, il est légèrement supérieur à celui qu'on a pu observer par exemple en 2015 de 74%, et donc il reste assez élevé. Alors, concernant les salariés agricoles, donc pour la première fois depuis 5 ans, l'emploi salarié agricole affiche un repli, inversant une tendance solidement ancrée depuis plusieurs années. En effet, les emplois salariés en contrat à durée indéterminée, mais surtout ceux en contrat à durée déterminée, permettaient de soutenir les effectifs d'actifs à un niveau élevé et en progression régulière. Le nombre de salariés en emploi au 31 décembre 2015 atteint 686 044, ce qui représente 13 000 emplois en moins. Donc trois périodes sont à considérer dans les années récentes. Entre 2005 et 2007, l'emploi salarié permanent était quasi stable et se maintenait au-dessus des 700 000 postes. En 2008, il a brutalement chuté, alors probablement sous l'effet de la crise financière et économique, pour passer sous ce seuil. Et enfin, ce mouvement de baisse s'est poursuivi jusqu'en 2012 de manière continue pour atteindre un point bas avec 660 000 emplois. Depuis 2012, le salariat montrait des signes de vigueur en progressant chaque année. Cependant, sur une longue période, l'emploi salarié reste tout de même solide. Alors Nathalie, une autre
question. Voilà. Je me tiens prête.
Concernant les femmes, sais-tu à peu près quelle est la proportion de femmes dans le métier agricole ?
Ah, est-ce qu'on parle ? Alors, la question, est-ce qu'on considère, parce que moi par exemple, ma grand-mère n'était pas considérée vraiment comme exploitante agricole alors qu'elle travaillait quand même sur toute l'exploitation avec son mari. Est-ce que c'est considéré dans le taux des...
Oui, on englobe tout.
Ah, bah alors je ne sais pas. 50 ?
Non, c'est à peu près un quart.
Un quart, ouais.
Donc effectivement, en 2016, il y a 110 972 chefs d'exploitation agricole qui sont des femmes. Donc avec 24% cette année contre 23% l'année précédente, la part des femmes reste à peu près stable. Elles sont en moyenne plus âgées que les hommes, 51,6 ans contre 48,2 ans. Et la moyenne d'âge de l'ensemble s'élevant à 49 ans. Alors, avec 6400 installés en 2015, les femmes représentent 37% des installations. Et parmi les 50 ans et plus, cette proportion monte à 71,1%. Donc, conséquence du nombre important de transferts entre époux au moment du départ à la retraite des chefs masculins. Concernant les productions agricoles, sais-tu, Nathalie, quelle est la production la plus importante ?
Alors...
Est-ce que tu as une idée ?
Alors, déjà une petite question. Plutôt production animale ou végétale ?
Alors, c'est plutôt végétale.
Plutôt végétale.
C'est une grande catégorie.
Le blé ?
Ouais, c'est ce qu'on appelle les grandes cultures. Mmh. Voilà, effectivement. Les activités agricoles, en fait, bon, elles sont très diversifiées. Hein. Elles sont recensées et codifiées selon ce qu'on appelle une nomenclature agricole spécifique, qui est composée de 25 classes. Allant de l'exploitation traditionnelle au club hippique ou en passant par les marais salants. Et c'est effectivement pour la première fois depuis des années le secteur le plus important du nombre de chefs d'exploitation est celui des cultures céréalières et industrielles et grandes cultures. Voilà, c'est la classification. Donc ça représente en gros 17% des effectifs et ce secteur devance celui de l'élevage bovin-lait qui prend la deuxième place avec 75 200 chefs d'exploitation, soit 16% de l'ensemble. Viennent ensuite le secteur des cultures et élevages non spécialisés, polyculture, polyélevage, et enfin celui de l'élevage bovin-viande. En termes de superficie, Donc la superficie, c'est la superficie moyenne des exploitations agricoles. On s'aperçoit que la superficie mise en valeur par l'ensemble d'exploitations agricoles diminue de moins 0,6% en 2016. Ça veut dire que on prend en compte l'ensemble des surfaces qui sont cultivées. Mais cependant, la superficie moyenne par exploitation continue, elle, de s'accroître, passant de 54,7 hectares en 2015 à 55 en 2016. Mais si on prend une évolution sur 10 ans, en 2007, la moyenne était de 50,4 hectares et aujourd'hui, on est à 55. Voilà, donc on a pris à peu près 5 hectares en 10 ans, ce qui est quand même assez, assez considérable. Voilà, et je voulais terminer par ça.
Voilà, très bien, on a terminé. Merci François.
Merci en tout cas, puis un prochain numéro.
Un prochain numéro.
C'était Des fermes et des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.